Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Merci pour ces informations. Le prochain journal, ce sera à 18h. En attendant, nous voici, nous voilà. Salut les mamies.
Salut Juliette.
Alors, c'est les fêtes, on se repose. Attends, Juju, tu sais qu'on a une très grande confiance en toi.
D'ailleurs, on n'est pas loin de penser que t'es la meilleure chroniqueuse de l'émission. Ouais.
Oui, oh, ça va, hein, j'ai déjà entendu ça. Si c'est pour me virer, dites-le tout de suite.
Non, on te met en valeur.
Non, c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Pardon, voilà. C'est vrai. Je suis hyper contente.
Juliette Mollo quand même. Parce que...
Quoi
Non, mais c'est vrai parce qu'on aurait un tout petit reproche quand même.
Je le savais. Voilà.
Tu as tendance à beaucoup t'impliquer quand même.
Comment ça?
Non, mais ça, t'es au taquet sur certains sujets.
C'est peut-être que tes chroniques gagneraient à être un petit peu
voilà,
plus.
Non, mais je vois pas pourquoi. Une chronique, ça se fait avec son âme.
Oui.
Ça se fait avec ses tripes.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans tes
parfois,
textes.
Parfois, un peu trop, quoi.
Bon, ok. Vous voulez que je fasse quoi alors?
Mais que t'arrêtes avec le féminisme là. Mais les femmes ceci, les femmes cela, et arrête pour les femmes, j'en ai marre, moi.
Mais pas du tout, Alex. Mais c'est pas ça le problème.
Mais t'as dit, on a un petit reproche à lui faire.
Mais oui, mais c'est pas du tout ça. Je pense que parfois, Juliette, t'es un petit peu émotive et puis donc
c'est une fille.
Mais ça suffit. Mais... oui, mais y a pas de différence ici, Alex. On est pour l'égalité. Hein.
Bim. Tu t'es bien fait reprendre, mon petit pote.
Non, mais c'est parce qu'il est idiot aussi, et puis fermé d'esprit là.
Oui. Enfin bon, c'est un garçon.
Je crois aussi, ouais.
Égalité.
Bonjour la France Inter, nous sommes le vendredi 4 janvier, vous savez quoi Alex?
Mais non.
Plus que 361 jours avant la fin de l'année. Ah bien que dans l'open space ce soit tous les jours la fête, bien sûr, surtout aujourd'hui puisqu'on va passer un moment en compagnie de Jean-Paul Gaultier. Son fashion freak show est toujours à l'affiche d'ailleurs des Folies Bergères. On parlera avec lui du Brexit qui devrait se produire cette année. Theresa May a même été rebaptisée la Dancing Queen parce qu'en arrivant sur scène lors du dernier congrès de son parti, elle dansait sur Abba. On se penchera ensuite sur Instagram qui dope le Botox. La chirurgie esthétique peut considérablement améliorer vos selfies, sachez-le. Puis on poursuivra l'émission avec Nina Bouraoui. L'écrivaine s'était penchée sur un événement troublant qui s'est produit dans la Somme. Des lycéens ont refusé de lire un roman imposé par le professeur parce que l'auteur n'était selon eux pas français. Alors que si, il est franco-algérien. Et il y avait trop de mots arabes dedans, figurez-vous. Alors on a ensuite parlé d'argot, car on a appris que l'argot c'était la langue de la survie dans les tranchées, que l'argot est né de la grande mixité sociale et géographique pendant la Première Guerre. Alors dites-moi, Alex, les fantassins de l'humour qui font partie des troupes aujourd'hui?
Ils vont beaucoup traiter de Charles Aznavour, figurez-vous. Il y aura Djoubaka qui nous parlera de la période Zazou du grand Charles, puis Christine Gonzalez qui s'entretiendra directement avec lui, ça c'est la chance qu'on a. Clara Dupont-Mono, elle, parlera du livre de Nina Bouraoui et on terminera par Frédéric Fromet. Viens voir les politiciens.
Allez, on monte sur le front de la bonne humeur. On commence avec Jean-Paul Gaultier.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bonjour Jean-Paul Gaultier.
Bonjour.
Vous venez nous parler du Fashion Freak Show. Alex Vizorek, vous êtes allé voir ce Fashion Freak Show. Vous êtes revenu
fou,
tout.
C'était une revue.
Tout
mais moi, je ne savais pas bien ce que c'était qu'une revue. Et c'est vrai qu'on voit les affiches dans Paris depuis quelques mois, Jean-Paul Gaultier.
Ouais.
Et on s'est dit, mais. Qu'est-ce que c'est? Parce que est-ce qu'il fait un one man show? C'est dit va piquer notre place. Est-ce que c'est un défilé un peu accessible à tout le monde? Et puis en fait c'est une revue, chose qu'on ne voit plus trop. Si vous deviez expliquer à un jeune ce qu'est une revue,
une revue. Disons moi le souvenir que j'avais des revues, c'est l'avoir vu étant petit, comment les Folies Bergères avec les femmes, avec les plumes, les strass et tout. C'était ça. Mais je crois que la revue c'est avant c'était presque des chansonniers, donc ils faisaient toute la revue de ce qui se passait politiquement. Je crois en 1880, une chose comme ça. Peu à peu, il y a eu des cocottes qui sont venues, qui ont été emplumées, qui sont déshabillées, qui ont chanté, et puis ça s'est de plus en plus déshabillé, et c'est devenu quelque chose d'assez léger, assez coquin, je crois, non?
Mais on est entre tout ça, chez vous.
Alors maintenant, c'est pas ça. Oui,
c'est ça.
Enfin, c'est pas ça. C'est-à-dire,
je vais faire
ma façon, donc il y a un petit peu quelques plumes, il y a quelques strass, des choses comme ça, mais il y a aussi un mélange de tout ce que j'aime, c'est-à-dire à la fois. Et ça mélange aussi la vidéo, ça mélange la danse,
le chant,
quelqu'un aussi même une actrice, mais ça mélange quoi aussi des défilés, la mode.
Oui.
Parce qu'il y a pas de spectacle vraiment de mode, bien que la mode fait son spectacle quand même maintenant en présentant des collections.
Et que des grands couturiers ont.
Ils présentent toujours des shows de plus en plus et puis voilà et j'avais fait ça, mais en fin de compte il y avait toujours. Si j'ai fait de la mode, je crois que c'est parce que j'avais envie de faire un spectacle, un défilé. J'avais vu Falbala, il y avait un défilé. C'était pas quelqu'un qui va acheter des vêtements dans un magasin, c'était des femmes qui passaient, les gens qui regardaient, qui admiraient, qui applaudissaient. Il y avait une vedette, il y avait le halo sur le visage de l'actrice, et tout ça m'a fait rêver. Donc en fin de compte, quand j'ai fait de la mode, j'ai voulu la présenter avec peut-être le spectacle de la réalité de l'époque, c'est-à-dire dans les années fin 70, début 80, avec des gens qui correspondaient à la modernité de l'époque, mais qui n'étaient pas du tout des mannequins professionnels, qui arrivaient et même qui pouvaient chanter. J'avais fait chanter à Edwige, l'ex-reine des punks. Je lui avais fait chanter My Way, version Sid Vicious, dans un défilé. Évidemment, ça n'a pas plu. Je n'ai pas fait pour pas que ça plaise, mais je l'ai fait simplement parce que je trouvais ça normal et que ça allait avec ce que je voulais montrer.
Mais donc, en fait, ce sont des tableaux qui se suivent, dont le fil conducteur, c'est votre vie. Il y a quelqu'un
ma vie.
Qui est Jean-Paul Gaultier sur scène.
Mais c'est parce que je n'avais rien à dire d'autre, quoi. En fin de compte,
c'est pas vrai.
Non, c'est pas la fausse modestie.
Parce qu'il y a des prises d'opposition sur certaines choses, qui sont quand même des sujets proches de vous. Mais...
Voilà, mais c'est des choses qui s'approchent de tout de la mode, quoi que ce soit par rapport à. D'abord le rapport homme-femme, l'androgynie, la chirurgie plastique aussi, ça c'est pour homme-femme hein, maintenant. plein de choses comme ça et tout que j'ai voulu montrer. Et puis aussi dans ma vie, des choses qui sont passées, comme par exemple, qui sont passées sur d'autres vies, c'est-à-dire le sida et des...
C'est ça pour voilà. En citer quelques-uns. Parce que
donc
moi,
ça traverse un peu toutes les époques, parce que je suis quand même pas si jeune que ça, même pas jeune du tout. Donc j'ai 66 balais et du coup, on peut voir au travers même les musiques qui correspondent un petit peu à toutes ces différentes époques.
C'est la meilleure forme d'autobio que vous pouviez faire peut-être, cette forme.
Mais j'ai pas voulu faire vraiment une autobio. Je vais vous dire la vérité. J'ai voulu faire simplement ce rêve d'enfant, c'est-à-dire faire une revue, la faire mais comment et raconter quand même quelque chose parce que quelquefois ça peut être vraiment chiant. Donc je me suis dit la seule chose dont je puisse parler et encore visuellement. C'est justement de ce que je connais, c'est-à-dire la mode qui touche à plein de choses, en fin de compte. Parce que la mode, c'est peut-être frivole, ça l'est sûrement, et tant mieux, mais c'est aussi un moyen de communiquer, un moyen de s'exprimer, un moyen de dire des choses,
et
un moyen de protester. Voilà. Et un reflet de la société, évidemment, c'est ce qu'on doit montrer. C'est ça un peu notre rôle, mais comme tous les gens qui font quelque chose par rapport même à la danse, tout l'art, mais aussi des choses, la cuisine, c'est aussi, ça doit se rapporter avec ce qui se passe dans l'énergie du moment.
Il faut dire, c'est du grand spectacle, 17 personnes sur scène, plein de costumes, évidemment, ça on attendait de votre part. Plein d'images. Vous parliez de Falbala, ce film de Jacques Becker qui vous a donné envie, avec Micheline Prel, dont on voit faire une apparition. Il y a plein de guests comme ça. Ouais. Il y a Catherine et Liliane, il y a Catherine Deneuve, il y a Lynn Renault et plein
d'autres
surprises. Rossi de Palma, Antoine de Caunes, dont on parlera pour le Brexit. mais vous revenez aussi sur... donc Falbala, c'est la culture populaire et ça, c'est votre force. C'est-à-dire que vous avez toujours emmené la culture populaire vers le haut et c'est la culture populaire qui vous a faite parce que vous n'êtes pas né spécialement dans une famille qui prédestinait à
ça. Tout à fait simple, à ça. Modeste.
Ouais.
Oui,
vous parlez des opérettes que vous voyez à la télé quand vous avez autant habillé Madonna que Yvette Horner. C'est important d'avoir dans cette salle aujourd'hui tous les publics aussi.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, je crois que j'ai toujours aimé à la fois des choses, on va dire, populaires, mais que j'aimais dès le départ. J'ai été nourri de ça et j'aime bien des émissions même super populaires. Au contraire, je les assume tout à fait. Les trop intellectuels, non, d'abord je comprendrais pas, pour dire la vérité, mais non, je crois que j'aime ça, mais j'aime aussi d'autres choses. J'étais attiré par l'esthétique, la beauté et tout, du fait de ma grand-mère aussi, et puis l'œil sur tout ce qui se passe, et puis j'ai rêvé d'être couturier en voyant un film. Voilà, c'est au travers d'un film. Donc c'est ça qui m'a fait prendre ce chemin-là.
Et ça, on le découvre sur scène au Folies Bergère.
Grand couturier et super populaire, ce qui est quand même très rare, c'est Jean-Paul Gaultier. Et de musique, il en est question avec Djoubaka à côté de nous, qui a fait le choix aujourd'hui d'une chemise cocktail, plutôt années 50.
Plutôt élégante, je trouve.
Ah, bravo, merci, monsieur. Hein. Et comme nous sommes sur une journée à Aznavour, j'ai décidé de vous parler d'une période où ils chantaient en duo avec Pierre Roche. Ils ont commencé à travailler ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour moi l'occasion un peu détournée de vous emmener sur un chemin que j'aime emprunter, en fait. Et de vous causer des azous, et d'un moment où en France, la SAP et la Zizik ont fait acte de résistance ensemble. Et tout commence ça en 1933 quand Cab Calloway sort le célèbre Zazou Zazoué. 5 ans plus tard, en France, Johnny S, copain de Charles Trenet à l'époque, met le pied à l'étrier avec Je suis swing, la guerre éclate et Andrex enregistre cette chanson Il y a des Zazous. Vous la connaissez tous puisqu'elle a été reprise par M et Brigitte Fontaine, mais voici l'original.
Blanc ou noir ou jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître, c'est les Zazous. C'est les Zazous. Un faux col qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend.
Il était dément, absolument dément. Un peu comme les incroyables, les contre-révolutionnaires.
Voilà, vous allez me la voir.
Et les Azous sont avant tout des fans de jazz, de musique noire. Ils copient à Cab Calloway son look Zouk Suit. Ils aiment parler français avec l'accent anglais. Ils idolâtrent en fait tout ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Et sous l'occupation, il devient très difficile, en dehors des endroits réglementés par la commandanture, en fait, de danser le swing. Va alors se monter une sorte de réseau parallèle où les musiciens de l'époque vont se produire en toute clandestinité, au nez et à la barbe des occupants. Et une femme, Madame Daidy, c'est son surnom, André Boyer, que j'ai bien connu, dirige alors le Hot Club de France. Ce qui est un vrai nid à moustiques, en fait, contre les nazis. Et pour permettre à des musiciens au teint méditerranéen, par exemple, de jouer en dehors de la clandestinité, elle transforme la nationalité. Ils deviennent espagnols, donc franquistes, italiens, donc mussoliniens. Et afin de passer les mailles de la censure, elle décide de faire jouer par des musiciens de jazz français des standards de jazz américains sous couverture de titres français, ainsi camouflés. Saint-Louis Blues devient la tristesse de Saint-Louis, Tiger Rad est rebaptisé la rage du tigre, et le caravane de Duke Ellington se transforme en carriole de Paimpol. Elle transforme quand même le local du Hot Club de France rue Chaptal, elle crée une salle de repos pour les musiciens sans sous ou qui risquent d'être arrêtés. À cette époque, cette dame est quand même la manageuse de Django Reinhardt, et vous savez comme moi, quel sort sera réservé aux gens du voyage. Donc elle monte un studio dans la cave, enregistre et produit des disques, et elle ouvre des clubs clandestins. Et dans la rue, les Azous vont, grâce au swing, faire acte de résistance parce que le vêtement tient, dans cette démarche, une place très importante. Ils sont visibles. Ils ont l'excentricité élégante. Et par bravade, ils portaient des vêtements trop longs, à une période où le tissu était rationné. Ils épaississent la semelle de leurs chaussures en remplaçant la crêpe par du bois. Ils gardaient les cheveux longs, alors qu'il y a quand même un décret vichyste qui dit qu'il faut récupérer chez le coiffeur les cheveux qui sont tombés afin d'en faire une matière première d'intérêt public pour la confection de pantoufles, Alex. Enfin, ils mettaient un point d'honneur à être toujours équipés d'un parapluie qu'ils n'ouvraient jamais. Ils jouent donc l'esprit de contradiction permanente, et quand le port de l'étoile juive est décrété, certains la porteront volontairement avec comme inscription « Zazou » ou « Swing » ou « Goy ». Ils sont sous le régime de Pétain, en fait, le furoncle de la jeunesse française. Et très vite, les mouvements de jeunes milices vont leur faire une guerre effrénée. Ils les rasent dans la rue, déchirent les vêtements, cassent les disques. Et certains de ces Azous se retrouvent au camp de Drancy. Et pour d'autres, beaucoup plus loin, comme le mari de Madame Boyer. La famille d'Anna Zemmour, à cette époque-là, fait de la résistance dans le quartier de Montmartre. La maman cache des Juifs, des Arméniens. Et au sortir de la guerre, avec son ami Pierre Roche, ils enregistrent cette chanson, le feutre taupé, autrement dit un chapeau de couleur taupe, un portrait de Zazou de première classe.
Il portait un feutre taupé, il parlait paronomatopé, il buvait des cafés frappés avec des pailles, il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas contourner boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un peu trop tombé, il parlait par un homme à tomber, il buvait des cafés frappés avec des pailles.
Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant, tandis que les gens disaient en s'éloignant.
Il portait un feutre taupé, il parlait par un homme à taupé, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés
boulevard Raspail. Il suivait une inconnue et lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu.
Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé
avec des bras. Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement
elle aimait son feutre taupé, son parler par un homme à taupé. Aussi les cafés frappés
avec des pailles.
Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché,
un air canaille quand il lui disait chérie. vous êtes la femme de ma vie, même. Même il ajoutait ces mots gentils. Papin, pouti, 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 pouti.
Plus tard, ils se sont mariés, cela fit un ménage cinglé qui se balade à Paris.
Boulevard, Raspail.
Il faut les voir
dans un café,
sur le comptoir,
buvant frappé, des cafés frappés avec des pailles.
Fabuleux, merci Djoubaka. Ah oui, France Inter, vous écoutez Par Jupiter, c'est Jean-Paul Gaultier, notre invité. On va profiter de votre présence pour parler un peu de l'Angleterre, tiens, avec Theresa May. Quel personnage. Theresa May veut se montrer très détendue. Cette semaine, elle a été baptisée Dancing Queen par la presse, car lors d'un congrès, le congrès de son parti conservateur, elle est entrée sur scène en dansant sur du ABBA. Alors certains ont trouvé cela gênant, d'autres la jugent plutôt habile de l'avoir fait. Quant aux Français, bon, bah, ils la trouvent tout simplement sous British, bien sûr. Ouais. Theresa May est en pleine négociation sur les conditions de retrait, avec notamment la France et les autres pays européens. Et écoutez bien, elle pose ses conditions, elle sait faire. Hein. Oula.
Premièrement, pour commencer, on ne veut rien, on espère. Au pire, on souhaite. Deuxièmement, pour continuer, nous autres, Bretons, sommes très à cheval sur le vouvoiement. Et troisièmement, pour finir, il est d'usage, lorsqu'on exprime une demande, de l'agrémenter de formules de politesse.
Valérie Lemercier dans Astérix au service de Sa Majesté. Nous avons des références culturelles, Jean-Paul Gaultier, attention.
J'adore.
Alors avant de revenir à Londres et à l'Angleterre dans votre spectacle, dans votre revue, déjà, le Brexit, est-ce que vous vous sentez un peu meurtri par le fait que les Anglais veuillent se tailler ?
Économiquement, je peux absolument pas répondre à ce sujet, mais par contre, dans l'esprit et tout, ça m'étonne pas parce que les Anglais ont toujours été différents et sont des insulaires. Donc, ils ont une vue un peu à eux, ils ont un esprit à eux, ils sont quand même assez merveilleux parce que c'est les personnes qui sont les plus près et les plus proches de nous et pourtant les plus différentes. Donc, ils sont assez extraordinaires.
C'est ça qui vous avait intrigué, chez eux?
Ah, bah oui, leur différence, leur extravagance, leur autodérision. Chose qu'on n'a pas, quand même, il faut dire.
Nous, on est belges, on ne sait pas. On a ça, non. Les Belges, on a ça.
Ouais, nous, on est encore plus proches. On est à Ostende, on regarde le large et bim, on y est.
C'est à peu près ça. Enfin bon, donc je trouve que... Non, j'ai toujours été attiré par Londres et tous les mamies excentriques avec leurs chapeaux, pas possible.
Et justement, Theresa May, qui arrive en dansant sur ABBA, comme
ça. Je trouve ça sympathique. Bon, il y a Obama qui l'a fait un peu, ça, dans cet esprit-là. Oui. Enfin là, disons, ABBA, c'est drôle.
Il dansait mieux, Obama, ouais.
Il dansait mieux, mais là, c'était Dancing Queen. Ouais. Donc, en fin de compte, elle qui l'a... Premier ministre et tout par rapport à la reine et tout. C'est assez drôle, non? Et puis le culte de la reine, c'est quand même quelque chose de très bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on leur coupe la tête et tout, et après, on va prendre un empereur, alors que eux, bah voilà, ils continuent avec toute la tradition, et ils en font même du tourisme.
Est-ce que là, elle est représentative de tout ça? Parce que Theresa May est toujours dans des tailleurs.
Assez strict,
il
faut le dire.
Elle est stricte, elle est conservatrice.
Mais on devine derrière autre chose qui se passe, c'est ça.
C'est ça qui vous intrigue. Alors, je sais pas si vous avez vu cette information. Mais il y a, semble-t-il, un bras mécanique, enfin un bras, faux bras, qui a été offert à la reine d'Angleterre, parce qu'à 92 ans, elle en a marre de saluer dans la voiture, et donc elle a une espèce de manche, comme ça, qu'elle agite.
British, tout le monde.
Mais est-ce qu'elle l'utilise?
C'est le mystère.
Alors, d'après un livre qui vient de sortir, oui.
Mais que dans la voiture, parce que sinon on le verrait si elle sortait son troisième bras.
Écoutez ce qu'elle avait fait au moment des Jeux Olympiques et tout, quand elle avait quand même le saut en parachute, enfin le faux saut en parachute et tout, c'était quand même extraordinaire avec James Bond.
Et donc, dans le Fashion Freak Show, c'est tout, voilà, il y a tout un pan de votre revue qui est...
Il y a notamment Antoine de Caunes, d'ailleurs, justement, qui représente la reine d'Angleterre, quoi.
Qui joue, là.
Un peu dévergondé comme reine d'Angleterre, quand même.
À peine.
Alors lui, justement, il a tout de suite fait le mouvement comme s'il tenait une cup of tea, avec la main qui tourne comme ça et tout, comme si elle était constante, comme s'il avait greffé sa tasse de thé dans la main.
Mais l'inspiration, elle est vraiment... c'est-à-dire que Jean-Paul Gaultier n'aurait pas été Jean-Paul Gaultier sans Londres.
Oui, c'est possible. C'est-à-dire que Londres, si vous voulez, à Paris, c'était quand même beaucoup plus rigoureux et tout, quand j'ai commencé à présenter mes collections, quand j'ai commencé à travailler. Alors qu'à Londres, je me sentais plus à la limite chez moi. Je sais que j'ai découvert, c'était au moment où il y avait le mouvement punk, et juste avant même, j'avais vu le Rocky Horror Show en pièce de théâtre, et qui m'a marqué énormément. Et j'ai adoré tout ça, toute cette dérision. Je me souviendrai une chose quand même incroyable, c'est que quand j'étais arrivé dans le théâtre, la placeuse, qui était une dame très âgée et tout, à un moment, donc elle nous a placés, et puis elle a retourné sa lampe torche vers son visage, et a fait une une horrible grimace comme ça. Comme pour nous faire peur. Une femme de 70 ans et c'est tout, drôle. Quand même merveilleux, non, qui fait une chose comme ça. Oui, donc j'adore Londres, c'est vrai.
Et le Fashion Freak Show avec le producteur et directeur musical Nile Rodgers. Abordons ce dernier sujet avec vous, Jean-Paul Gaultier, car aux États-Unis, les chirurgiens esthétiques s'alarment. Ils voient défiler de plus en plus de millennials, donc ils ont à peu près 20 ans, à la recherche d'un physique plus propice aux selfies. Parce qu'en plaçant la lentille du smartphone à 30 cm du visage, le nez paraît plus large de 30%. Et c'est vrai qu'en retouchant directement le nez, ça évite de retoucher les milliers de selfies à venir.
Tout le monde y viendra. C'est dans la nature des choses.
Alors, d'ailleurs, en parlant de nature, je me demandais si c'était pas un peu bizarre que ça soit toujours aussi gonflé.
Mmh. Vous voulez que je vous dise ? C'est pas les lèvres qui sont gonflées, c'est le reste qui est plat.
Ah bon ?
Les lèvres, elles sont superbes, volontaires, pleines de fougue. Ce sont des lèvres qui ont envie de bouffer la vie, vous voyez ? Par contre, le reste, c'est fade. Disons que c'est là, mais son relief, c'est là, en s'excusant presque d'être là...
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
C'est Théo Keller et Guillaume Canet dans Rock'n'Roll, le film de Guillaume Canet.
C'était génial comme film, j'ai adoré vraiment.
Qui se termine avec cette problématique. Et les chercheurs américains disent « Les patients ont recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à des versions filtrées d'eux-mêmes. » C'est un thème qui est abordé dans le Fashion Freak Show. Allez.
Moi, j'ai trouvé que c'était le tableau le plus drôle. Parce que je ne m'attendais pas à ça de vous, vu certaines personnes qui ont porté vos robes. Non, mais c'est vrai. Après, on voit aussi des visages et machin. Et le sketch se termine parce que ça se passe dans une espèce de supermarché
d'esthétisme.
Voilà. Et donc, il y a une voix off qui dit promotion sur les bras au troisième étage. Et c'est hyper drôle, c'est là tout le monde se marre. Et c'est vrai qu'à la fin, ça se termine par... en fait, c'est beau, une ride.
C'est beau, une ride. Bah, c'est ça un petit peu la conclusion. C'est qu'aussi, c'est beau aussi de vieillir. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, j'ai aucune critique à faire par rapport aux personnes qui ont des besoins et des nécessités, même psychologiques d'ailleurs, de se transformer. Ça peut aller, même il y a toujours eu un travail sur le corps, que ce soit même les tatouages, que ce soit les scarifications dans les tribus et tout, ça a toujours existé. Les pieds tout petits des chinoises, enfin bon, plein de choses. Le cou des femmes girafes, enfin. Mais donc là, il y a une obsession. Maintenant, c'est les fesses et les hanches. Maintenant, c'est ça, à la Kardashian. Ça, c'est le grand truc que beaucoup de personnes. J'ai vu l'autre jour des filles à Londres comme ça, mais toutes les deux avaient le même modèle, mais exactement fait pareil.
Non, mais la mode, elle passe. Enfin, le fait qu'on voit défiler, pas vous justement, mais la mode fait défiler comme un prototype et donne envie aux
mais
autres.
La mode aussi fait des prothèses déjà à la base. C'est-à-dire que justement dans la mode, vous voyez les padding, c'est quoi? Bah, c'est des espèces de prothèses qu'on met dans les épaules pour avoir les épaules bien droites après avoir la taille qui ressort. On met aussi des prothèses de hanches. Ça peut être ça, la couture, c'est un petit peu ça aussi. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'avec un vêtement, c'est plus facile, il n'y a pas besoin d'anesthésie, hein, c'est un petit peu mieux. Et puis après, quand on en a marre, on peut jeter et puis trouver autre chose. Non. Alors que là, quand c'est déjà sur le visage et sur soi-même, c'est un peu autre chose. Mais quelquefois, ça peut être un choix, ça peut être salutaire. Mais c'est vrai qu'on a une éducation qui nous fait dire que le fait de vieillir, c'est ça, c'est ce qu'il ne faut pas aller vers, ce qui est impossible. Oui. Mais plutôt, on devrait voir qu'en fin de compte, il y a de la beauté aussi chez les gens qui vieillissent. Il y a certaines personnes qui sont un physique, on va dire, inintéressant. Ils sont jeunes et qui d'un seul coup en vieillissant ont d'un seul coup quelque chose, une espèce
même
de
lumière. Même Gérard Collomb, on est d'accord.
On est d'accord.
Et voilà comment le Fashion Freak Show s'inscrit aussi dans la société.
Non mais donc, on rigole beaucoup aussi quoi.
Oui, c'est ce qu'on voulait dire aussi évidemment. À côté de vous, Jean-Paul Gaultier, on parle avec l'au-delà régulièrement le vendredi par le truchement de la Suisse de l'étape, Christine Gonzalez.
Charles Aznavour.
Je n'entends rien.
Charles,
je n'entends rien, rien, rien.
Et là, vous m'entendez?
Oh oui.
Parfait, vous êtes en direct sur France Inter.
Plus on est de fous, plus on rit de tout.
Ouais, mais moi j'ai pas envie de rire, Charles.
Pourquoi?
Parce que j'ai mal.
Où as-tu mal? Et pourquoi as-tu mal à...
J'ai mal au cœur parce que vous êtes parti et que depuis lundi, le ciel est gris.
Moi qui l'ai connu toute ma vie, que le ciel du Nord.
Eh bien, le Nord est triste.
J'aimerais les barbouiller ce gris environ d'abord.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
A priori, vous reposerez plutôt dans les Yvelines.
Pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là ?
Ah, si, c'est vrai.
Je te moque de moi et de tout avec ton air canaille, 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 canaille.
Tout va bien, Charles ?
J'ai déraillé.
Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ?
Ça voulait dire. On est heureux.
Ouais, ben, vous êtes bien le seul. Vous êtes bien le seul à être heureux.
Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête. Et mon passé revient du fond de sa défaite.
Vous n'avez rien oublié ?
Non.
Et qu'est-ce que vous avez préféré ?
J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout.
Et puis en plus, vous étiez en haut de l'affiche.
En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Donc tout est parfait, zéro regret.
Je l'avoue, j'ai fait ma vie, mais...
Mais ?
Il y a un mais.
Mais quoi ?
Je donnerai...
Je donnerai...
Ce que j'ai pour retrouver.
Pour retrouver qui ?
Je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Et qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Je fuis vers l'incertain, vers l'infini, vers des ailleurs, chercher l'oubli.
Ouais, mais l'oubli, ça arrivera pas. Vous savez que vous êtes un monument.
Formi, 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 formidable.
Et puis, vous nous manquez déjà ?
Nous reverrons un jour ou l'autre. J'y tiens beaucoup.
Ouais, enfin, pas trop vite quand même.
Touchons du bois.
Oui, je touche du bois.
Je dois vous avouer que j'ai été une fois de plus ravi.
Non.
D'être parmi vous.
Non.
Ce soir encore. Je voudrais encore vous dire. Merci pour votre présence ici ce soir. Merci pour votre fidélité.
Non, 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 vous partez pas, hein.
C'est fini, 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 fini. C'est fini, 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 fini.
Non, Charles, encore quelques chansons, s'il vous plaît.
C'est fini, 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 fini.
Au revoir Charles Aznavour, le public vous aime et vous aimera toujours.
Le public a raison.
Merci Christine.
Bravo, bravo Christine Grosalès.
Ah oui, une Suisse qui rend hommage à Charles Aznavour, c'est un juste retour des choses, je pense.
I am undecided on how to cook it in a pressure cooker in a bain-marie. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
The microwave oven will do the trick. I turn the knob to 966. It is a delicate and sweet dish. It is a delicate and sweet dish.
No.
Orange bubbles and it looks at me. His half open mouth is trying to speak. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
No, not easy to cook.
Still hot and steaming. It approaches me. My name is Christian, put me in your belly. I am a delicate and sweet dish. I am a delicate and sweet dish.
fétiche.
S'appelle Cannibal et la chanson Alex vous le donne en mille, Not Easy to Cook.
Et je veux bien le croire.
Allez, on change de partenaire, on a quitté Jean-Paul Gaultier pour retrouver Nina Bouraoui. Un jour vous étiez absent Alex, alors...
Ça m'arrive très rarement, mais occasionnellement, Juliette prend brillamment ma place.
Exactement, vous allez pouvoir réécouter comme ça, vous aussi, découvrir. C'est Nina Bouraoui, allez.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà les manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue dans Par Jupiter, Nina Bouraoui.
Merci.
Votre livre s'intitule « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». C'est paru chez Jean-Claude Lattès. Vous travaillez la question de l'identité à travers toute votre œuvre. Votre identité géographique, une mère bretonne, un père algérien. Votre identité amoureuse, l'attirance pour les femmes. Et votre roman, ici, est construit de telle sorte qu'on balance d'un chapitre à l'autre entre votre enfance et vos premiers pas d'adulte dans un club underground, on peut dire.
Underground.
Juliette, une première question avec laquelle je suis totalement en accord.
Oui, c'est-à-dire que je suis arrivée au bureau tout à l'heure et on est tombé d'accord sur le fait suivant avec Charline. Votre roman, alors que c'est pratiquement votre 10e
16e.
D'accord, c'est votre 16e. Il sonne, en tout cas, il résonne pour nous, lectrices, comme un premier roman, ce qui est une immense qualité.
Pour sa fraîcheur. Peut-être.
Sa fraîcheur et l'impact qu'il a sur nous. L'impact un peu dévastateur, c'est-à-dire qu'on regrette de ne pas avoir 19 ans et d'être lesbienne.
Alors ça me fait plaisir pour plusieurs raisons, parce que mon premier roman, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus du double. Mmh. Alors c'est bien, vous me rajeunissez. Deuxième raison, c'est que ce roman, hélas, a une forme de modernité. Moi, je ne pensais pas revenir sur mes premières amours et raconter comme combien il est important d'avoir et d'être fier d'avoir de culture, et combien l'homosexualité n'est pas un choix ni une perversion, mais une nature humaine. Et d'ailleurs, je ne parle pas d'attirance, mais d'amour, comme une femme peut aimer un homme, comme deux hommes peuvent s'aimer. Une attirance, c'est quelque chose de temporaire. Être homosexuel est une véritable épopée, et c'est ça que j'ai voulu raconter, pour ne jamais oublier qu'un adulte homosexuel a été un enfant homosexuel, et j'ai écrit aussi pour ces adolescents-là, c'était important. Donc oui, c'est un premier roman, vous avez raison.
Justement, les jeunes sont portés aussi vers les premiers romans, donc en écrivant, vous aviez conscience que ce roman, vous lui donnez peut-être presque un rôle un peu social, qui tombe entre les mains de jeunes qui se posent des questions et qui peuvent le vivre difficilement.
Oui, mais tout mon travail a été ainsi depuis le début, finalement. Je crois que je me suis toujours défendue, j'ai souvent dit que j'étais pas militante, j'étais pas engagée, mais en fait, j'ai fait que mentir. Je pense que je suis une vraie révolutionnaire parce que mes parents étaient deux révolutionnaires. Ils se sont rencontrés pendant la guerre d'Algérie, mère française, père algérien. Et puis ma mère fait le voyage à l'envers. Quand tous les Français quittent l'Algérie, elle arrive en Algérie et elle essaye d'épouser ce pays, de l'aimer, en tout cas de se faire aimer. Elle l'aime. Elle n'est pas aimée tout de suite, mais elle se fait quand même aimer. Et en tous les cas, elle nous apprend, avec ma sœur, cette terre hypnotique, fabuleuse et aussi dangereuse. Vous savez, quand on écrit un roman, on a conscience de rien. Aujourd'hui, je m'aperçois que ce roman m'a appris quelque chose, m'a appris que j'étais bien plus fragile que je ne le croyais. C'est un roman qui me déstabilise beaucoup parce que c'est la première fois que je parle autant de mon intimité et de ses fêlures. Et c'est la première fois que je me rends compte qu'aujourd'hui, encore, en 2018, être un homosexuel peut être dangereux. Tous les jours, hélas, nous avons des témoignages de violence. Et je suis À la fois, je suis très fière, parce que tant mieux si je rentre dans la solitude d'un adolescent, que sa porte, la porte de sa chambre s'ouvre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des associations telles le Refuge, qui accueillent des jeunes en détresse dans la rue, parce que les parents ne veulent plus d'eux, quand ils apprennent leur identité sexuelle. Alors, je crois que, moi, c'est un long chemin. La littérature est un long chemin. C'est mon 16e livre. J'ai l'impression de bâtir un édifice amoureux, de toujours me remettre en danger, toujours me remettre en question. Je ne sais pas si j'avais à la fois à l'esprit l'enjeu de ce livre, mais aujourd'hui je sais que oui, c'est un livre presque d'action.
Édifice amoureux envers les livres aussi, et je vais me permettre de lire un extrait sur la relation avec votre mère, la relation de votre mère avec les romans. C'est un aspect que Clara Dupont-Monod va développer tout à l'heure. Elle tient ses romans contre elle, il ne faut pas la déranger. Quand elle ferme les yeux, j'ai l'impression qu'ils s'endorment ensemble, chair contre chair, que les livres sont vivants. Elle lit Yves Navarre, Jean-Louis Borry, Wilhelm Reich, elle corne les pages, souligne des passages, casse ses livres, ouvre la tranche comme on ouvre un corps, des jambes, elle les possède, les relit, les cite de mémoire, les collectionne, il mange l'espace de l'appartement, la bibliothèque, la chambre, la cuisine parfois, elle ne les oublie jamais, ne les prête pas, elle les donne comme s'ils étaient une parcelle de sa peau. Alors, vous êtes écrivain, grâce à la relation presque charnelle qu'entretient votre mère avec les livres, ou aussi du fait du déracinement. Ou aussi, est-ce que vous n'auriez pas été écrivain si vous n'étiez pas homosexuel ?
C'est pas votre question, il y a toutes les réponses. Parce que je crois que
c'est pas mon habitude.
Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que pour toutes ces raisons. En fait, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un milieu où on lisait beaucoup, où le livre avait une place très importante. C'était les années 70. Il y avait beaucoup de débats d'idées à la maison. Mes parents étaient ce qu'on nommait des intellectuels, des universitaires, qui se prenaient pas au sérieux, mais quand même, l'idée, la politique, c'était important. Il y avait quelque chose comme ça de très magnétique. Et moi, je voulais faire comme eux. Je me disais, voilà, apparemment, le papier, les livres. Et puis, ma mère, la fascination que j'avais pour elle, souvent, j'étais assez jalouse de ses temps de lecture, parce que c'était des temps qui étaient contre moi. Moi, j'étais très accrochée à elle. J'étais un peu une enfant enfermée de l'intérieur, parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que j'étais une enfant différente des autres. Et je voyais la réaction des autres, donc qui creusait en moi une forme de solitude. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à 18 ans dans ce club de femmes au Katmandou, rue du Vieux Colombier, j'ai su que je deviendrais un écrivain, d'abord pour une mauvaise raison, plutôt triste. Je me suis dit que si j'écrivais, si j'arrivais à être publiée, parce que j'écrivais depuis l'enfance, je savais que c'était ça, mon moyen de m'exprimer, d'aborder, de m'inscrire dans le réel, parce que le réel me semblait parfois un peu trop étroit ou trop large pour moi, je n'y avais pas ma place. J'ai pensé qu'on me pardonnerait mon homosexualité. Si j'étais une artiste et si j'évoluais, que ce monde-là serait certainement plus doux que le monde de l'entreprise ou que le monde des fonctionnaires ou que le monde...
Start-up Nation. Nina Bouraoui, voici ce premier sujet. C'est une enseignante de la Somme qui a demandé à ses élèves de lire Le porteur de cartable d'Akli Tadjer. Les adolescents ont dit non. Non parce que l'auteur n'est pas français, disent-ils, parce que l'histoire ne concerne pas la France, tiens donc, et il y a des mots d'arabe dedans. Ouh là là, attention. Ah oui. Et Sam Dam, c'est pas notre kiff. Ah zut, kiff ça, moi, arabe. Ah ben allez, non. Plongeons-nous dans cette classe.
Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les arabes et de tous les noirs, enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, bah, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, hein. Enfin, peut-être.
Je comprends, Guillaume. Parfois, on dit des choses et on se rend pas forcément compte, mais ça peut être très grave. Hein.
Moi, je sais pas. C'est mon père, il dit ça tout le temps, alors...
Mais c'est pas une raison pour le répéter. Ton père pense ce qu'il veut, et toi, tu dois apprendre à te forger ta propre opinion.
Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Alors l'enseignante a contacté l'auteur franco-algérien, dont le thème du livre c'est la guerre d'Algérie, la rencontre en 62 de deux enfants, l'un soutien du FLN, l'autre pied noir de retour en métropole. Alors Corinne Bouraoui, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous auriez envie de... Pardon, j'aurais pas dû commencer comme ça, parce que pour pouvoir répondre. Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ces élèves, si vous les aviez... là, en classe, voilà, vous qui êtes écrivaine, entre la France et l'Algérie.
Ça fait énormément de peine pour l'auteur, déjà pour l'écrivain, pour ce qu'il est. Et ça veut dire aussi que la jeunesse n'est pas garante d'intelligence, de tolérance, de douceur. C'est l'éducation. Ce sont les parents, l'école, beaucoup. Et je crois que... Mais ça rejoint... je crois que le mot pédéguine, ce sont deux mots qui sont le plus employés dans les cours de récréation, parfois sans même connaître la signification. Et parfois, l'intention n'est pas peut-être un mot homophobe. Je crois que ça veut tout dire de la sauvagerie de l'adolescence, la sauvagerie de l'enfance. Et je crois que grandir, c'est être une herbe folle. Il faut des coups de sécateur, il faut... Je crois que c'est Gainsbourg qui disait, mais voilà, Charlotte était comme une rose, et il disait, je la taille un petit peu. Et je crois que c'est vraiment... Peut-être que le professeur, en tous les cas, de cette classe, a une future responsabilité, non pas de laver les cerveaux, mais d'instruire et de dire... Je crois qu'ils n'étaient même pas au courant que l'Algérie avait été colonisée, avait été française. Mmh. Donc c'est, je crois que l'éducation nationale... Enfin, il y a quelque chose là avec... avec la culture, notre histoire. Je trouve qu'on dit qu'on a fait tant de progrès technologiques, mais on a l'impression que... Ces enfants-là, nos enfants, même si j'ai pas d'enfants, mais nos enfants, je suis une mère symbolique parce que je pourrais avoir des enfants et on a l'impression que le réel, il n'habite plus le réel. Voilà, parce que c'est un excès de virtualité fait que la douceur et la compréhension, la tolérance. Et ça va pour les nationalités, ça va pour les homosexuels, pour tout.
Et le sens de l'histoire aussi, Nina, il y a aussi...
Tellement,
ouais. Mais oui, c'est là où on voit l'apprentissage de l'histoire. Quand effectivement, la professeure déclare à Akli Tadjer, l'écrivain, que les élèves lui ont dit « Ah ben, l'Algérie, ça concerne pas la France », en oubliant complètement toute l'histoire franco-algérienne. La Picardie aussi, ça se passe dans la Somme. Il l'a rappelé, l'écrivain, en disant que c'était une terre gorgé de sang, de tous les soldats maghrébins qui sont venus lutter au moment de la Première Guerre mondiale. Je veux dire, c'est l'histoire. Qui sait d'où il vient, sait où il va. Et là, ce sont des... L'apprentissage de l'histoire, là, est plus que jamais indispensable.
Et la rencontre aura lieu, donc, entre l'auteur et les élèves. Clara Dupont-Monod.
Charline Manoneka.
Vous avez lu le livre de Nina
Bouraoui. Mais oui, c'est l'actualité. C'est ce livre de Nina Bouraoui qui s'intitule, donc, je le rappelle, « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Alors, c'est une phrase, une très belle phrase d'Aristote. Il aurait pu s'appeler « Tous les enfants désirent naturellement savoir ». Savoir quoi ? Par exemple, qui sont leurs parents ? Moi, en tout cas, j'ai lu votre livre, Nina Bouraoui, comme le fait que vous avez écrit votre mère. Parce que votre mère, elle n'est pas malade, comme celle de Delphine de Vigan dans « Rien ne s'oppose à la nuit ». Elle n'est pas mourante, comme celle d'Albert Cohen dans « Le livre de ma mère ». Elle n'est pas maltraitante, comme dans « Vipère au poing » d'Hervé Bazin. Elle est d'ailleurs plutôt structurante, cette mère, en tout cas de prime abord. Mais elle aime les livres et le cinéma, c'était l'extrait que nous a lu tout à l'heure Charline. Elle a du courage, parce qu'elle impose son mari algérien à sa famille bretonne. Et puis, elle sait s'adapter, puisqu'elle s'implante en Algérie, et elle vous élève, vous et votre sœur, dans la tendresse de ce pays. Ça, vous êtes d'accord ?
Totalement.
Structurante.
Oui.
Après, vous mettez en scène toutes ces zones d'ombre. C'est-à-dire que votre mère porte en elle une espèce d'errance intérieure et qui l'amène, par exemple, à s'évanouir régulièrement, comme par exemple dans l'avion. Donc elle tombe dans les pommes, les hôtesses s'activent autour d'elle, on lève les accoudoirs, on l'allonge sur trois fauteuils et vous dites, je cite, « Je comprends ma mère. Elle veut se laisser faire, que l'on s'occupe d'elle. Elle a raison. Il est judicieux de faire appel à ceux qui savent. » Début des années 90, la situation en Algérie se durcit. Un jour, votre mère rentre avec la robe déchirée, avec des crachats dans les cheveux, avec de la suie sur la peau. Elle ne dit rien, elle s'enferme dans la salle de bain, elle prend une douche et elle ne vous en parlera plus jamais. Un autre jour au supermarché, subitement, un homme plaque sa main contre le sexe de votre mère et à votre grande surprise, votre mère ne bouge pas, elle ne dit rien. Et plus tard, elle vous dit, un peu comme quand on donne une clé à quelqu'un, elle vous dit « J'ai appris à nier ce qu'on ne peut nommer. Sans mots, rien n'existe. Tu comprends ?» Vous avez très bien compris. En tout cas, que vous soyez devenu écrivain en regard de cette phrase en dit long, puisque vous serez la femme des mots, donc vous ne nierez pas. Je cite « Je rêve de livres remparts et de reconnaissance. Il me faudra des années pour déconstruire l'idée fausse que les mots protègent, réparent ou rendent meilleurs. » Et vous avez raison, les mots ne font rien de tout cela. En revanche, ils nomment. Ils font exister les choses dès lors qu'elles sont mises en langage, ce qui revient en fait à percer la nuit de votre mère. Parce que vous êtes engagé à ses côtés, au sens quasiment chevaleresque du terme, c'est-à-dire que vous êtes lié à elle par un serment muet, qu'on appelle l'amour fou. Exemple, dans la rue, vous marchez en lui tenant la main et vous avez toutes les deux un code secret. Une pression sur la main signifie « je t'aime ». Trois pressions, bonheur absolu. Zéro pression, je cite « le temps passe et il est beau quand nous sommes ensemble », ce qui est bouleversant. Conclusion en forme de serment, justement, vous dites « je veux guérir ses plaies, apaiser ses tourments, je lui promets de la chérir, de la protéger ma vie durant, je la trahirai forcément et je chante la maladie d'amour parce que c'est nous ». Alors cette maladie, ce sera l'errance, en fait maladie amoureusement transmissible, parce que votre livre raconte aussi vos errances nocturnes dans Paris, dans le milieu homosexuel, où vous avez honte de votre homosexualité. En fait, vous vous portez vous-même comme un fardeau, comme si vous étiez lesté des souvenirs d'Algérie et de celui de votre mère. Alors en même temps, tout ceci vous a permis d'être vous. C'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est un livre en fait qui associe le poids et l'envol. Parce que des thèmes comme la mémoire, comme la différence, comme le déracinement et bien sûr la mère, vous en rendez la pleine dimension à la fois de grands chagrins et de profondes richesses. Ce qui fait que vous êtes devant nous en ce moment-là. Je vous redonne les références. « Tous les hommes désirent naturellement savoir » de Nina Bouraoui est paru chez Lattès.
Merci Clara Dupont-Monod.
Merci, c'est très émouvant. Peut-être juste dire que ma mère ne s'évanouissait pas. En fait, elle souffrait d'asthme. Alors c'était une façon d'étouffer du réel aussi et de se destituer du réel et de nous quitter de temps en temps. Mais je trouve c'est très beau parce que c'est vrai, c'est une grande déclaration d'amour à ma mère. Et qu'au départ, je voulais écrire un livre sur ma mère. Et puis très vite, je me suis rendu compte que nous ne savions pas qui étaient ceux qui nous avaient donné la vie, comme nous ne savons pas qui sont vraiment nos ancêtres, et que nous sommes des héritiers d'une histoire, en fait, que nous ne connaissons pas. Et si je remonte très, 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 très loin, moi, j'ai toujours le fantasme de me dire que nous venons du premier homme, de la première femme, que nous venons de leur séisme, de leur guerre, de leur sauvagerie, de leur peur, et qu'en nous, nous portons encore cette part de sauvagerie, et que peut-être être adulte, pour revenir à ces adolescents un peu fous qui disent n'importe quoi au sujet de ce roman, peut-être qu'être adulte, c'est dompter sa part sauvage.
Nina Bouraoui, qu'est-ce qu'on peut ajouter après du Nina Bouraoui?
On n'est pas trop adulte, là. Personne n'a dompté sa part sauvage.
Tant mieux. Nina Bouraoui est en notre compagnie, on va aborder cet autre sujet. L'argot a fleuri sur les champs de bataille. Il y a un long article dans La Croix, paru aujourd'hui, qui nous explique que l'argot, c'est la langue de la survie, de la catharsis, et qu'il s'est développé parmi les soldats. C'est l'un des rares endroits où il y a un grand brassage culturel et social. Coïncidence, ça le linguiste ne le croit pas.
Je le répéterai pas deux fois, débraye ton soufflant, je te dévisse pour perpète.
Est-ce mornif une bastonce dans la carafe?
Gouspillé, j'aspine pas dans la pistache.
Et moi je turbine pas dans les roues flaquettes.
Ça va clapoter dans la penture.
C'est bien reversé avec le rouvion.
Oh ben mince, il est mort.
Hein?
Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan.
Ah oui.
Les Inconnus, dans une parodie d'Audiard. Pourquoi aborder ce sujet avec vous, Nina Bouraoui, outre le sujet de la langue et de l'argot, bien sûr? C'est parce qu'aujourd'hui, on nous vante, par exemple, le service militaire comme un des seuls endroits où le brassage social et culturel est possible. Et dans votre livre, vous parlez du CAT, le Katmandou, un club où là, il y a un énorme brassage. Vous racontez qu'on trouve des avocates, des médecins, des ouvrières, des people, etc. Et il n'y a pas un seul mot d'argot dans votre livre.
Non, mais j'adore le grand écart des tranchées au Katmandou. Bravo, oui. C'est bien.
Oui, alors bon, il n'y a pas de comparaison, hein, mais.
Non, c'est vrai. Il y a peut-être quelques mots en arabe. Et puis après, moi j'ai toujours dit que j'écrivais un français qui était éclairé par la langue arabe de façon invisible, parce que j'ai grandi pendant 14 ans en Algérie, que même si la langue maternelle est le français, mon père étant algérien, bon, on parlait français à la maison, mais moi j'ai fait 15 ans d'arabe classique, et c'est vrai que ce français que j'écris est un peu orientalisé dans la façon, la structure des phrases, le souffle, la miniature... je dis souvent que je suis un écrivain légiste, je passe beaucoup de temps sur la musicalité de mes mots.
Mais vous pratiquez encore l'arabe? Ou vous l'avez un peu perdu du coup?
Je sais le lire, je peux l'écrire sous une dictée, mais je ne peux pas tenir de conversation. Mais en revanche, j'écoute quand même beaucoup de musique orientale. Je reconnais dans la rue surtout le dialecte algérien, qui est un dialecte particulier. Je comprends, mais je peux pas. Il me manque des mots. Voilà, mais c'est bizarre parce que je pourrais reprendre des cours, mais cette frustration, je la comble d'une autre façon, en ayant le mot juste en français. C'est un peu paradoxal, mais je suis faite ainsi.
C'était tous les jours de la semaine, mais aujourd'hui on est vendredi, c'est vraiment le jour où on le retrouve.
C'est son jour à lui, Frédéric Fromet. Cette chanson-là, eh ben, c'est un hommage aux politiciens disparus. Viens voir les politiciens.
Viens voir les politiciens, voir les tragédiens, voir les vieux machins. Gérard Collomb, viens voir les politiciens, voir les cabotins, voir les bouts en train. Manuel Valls, les politiciens ont quelque chose de magique, même que s'ils devaient passer un examen psychiatrique. Vous pariez combien qu'ils seraient déclarés barjots, frappadingues, siphonnés, parano, mégalo. Azimuté, cinglé, taré et malade, givré, cintré, timbré et irresponsable. Et avec eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les politiciens. Viens voir les politiciens, voir les pots de vin, voir les margoulins, les Balkany, viens voir les politiciens et leur baratin, le pyrénéen. Jean Lassalle, si vous voulez voir confondu les coquins, ces peines perdues auront toujours nos bulletins. Si vous pensez qu'il vaudrait mieux un martien, c'est encore foutu, Jacques Cheminade en est un. Il faut les voir jouer aux chaises musicales. Le pouvoir est une drogue à effet sans égal. Voyez Manuel qui, déçu par les sonnes, ose pousser le vice à Barcelone. Il est moyé de ya en haut de l'affiche, en 10 fois plus rouge que n'importe qui avec mes castagnettes. Il est moyé de ya, adulé et riche, signant mes photos alors qu'à Évry personne me regrette. Viens voir les politiciens, voir l'américain, voir le philippin, le nord-coréen. Viens voir les politiciens, voir ceux du Kremlin, le vénézuélien, les italiens qui de Donald Trump ou de Kim Jong-un, de Ritro, de Rodrigo Duterte fait le meilleur des clowns. Qui de Poutine ou de Erdogan, de Bachar el-Assad a plus besoin qu'on le soigne. Mais pourquoi s'emmerder à regarder ailleurs? N'a-t-on pas assez de têtes de vainqueurs? Avec Macron, Le Pen évoqué, et Mélenchon et consorts, on est gavé. Viens voir les politiciens, voir tous les zinzins, on en a tout plein. Sarkozy, vient voir les politiciens, voir les consanguins, voir Christine Boutin et son cousin. Aïe les politiciens, aïe les comédiens, il me faut une chute. François Fillon.
C'est la fin de cette émission et la fin des florilèges,
oh,
Alex.
Non.
L'occasion de dire un grand, grand merci à l'équipe Par Jupitérienne qui prépare cette émission avec nous, à la programmation Nathalie Romero, Fabrice Riveau et Sarah Masson, assistée de notre stagiaire Paul Plumet, la programmation musicale Djoubaka, à la préparation aussi Ramzi Assadi, à la réalisation Anne-Sophie Ladonne. Et pour emballer ces florilèges à la technique, il y avait Maxime Ingrand, Pierre Faucillon et Rémi Sistiaga. À lundi.
À lundi.